السلام عليكم، مراكم مع جماعة الحراقة هنا في دعت قلق
لمشيو حراقة لا بوا دي سان بوا دي جيشوي دي لا في ال في ابل على رو كي لا انتربل
اي فوز الي بو ريغالي افيك فو ميكرو تروتوار
اي لا كرونيك
دو روني نافا.
C'est une revue de presse halal sur des sujets haram. Wallah l'azim.
N'oubliez pas, vous êtes avec les Haraga de Marseille. Bakhir l'Haraga.
L'émission phare de Radio Galère, tous les jeudis.
De 16 à 18 heures, m'sa'a la rabia hatta sa'a sadisa.
La France est atteinte d'une grande fatigue. Depuis 4 ans, les crises se succèdent de manière ininterrompue. Gilets jaunes, Covid, perte de son précaré, retraite. Un endettement extérieur de près de 3 trillions de dollars. Une crispation généralisée, comme tend à l'expliquer les dernières mesures anti-palestiniennes de l'évêché de Versailles, du maire socialiste de Marseille Benoît Payan et du rectorat d'Aix-Marseille. Mais la liberté d'expression, fondement de la démocratie, ne saurait constituer une forme d'antisémitisme. Et l'accusation d'antisémitisme ne saurait devenir l'arme de destruction massive pour réduire au silence toute critique à l'égard d'Israël. Ici, la chronique de René Naba, politologue, spécialiste du monde arabe et du Moyen-Orient, interviewé par Kamar Idir.
Bonjour, pour notre rendez-vous hebdomadaire, la revue de presse Halal sur des sujets haram. Ce qui veut signifier, j'aborde les sujets que n'osent pas traiter les autres journalistes, mais en disant en parlant vrai. Émission revue de presse Halal sur des sujets haram, dans le programme de Kamar Idir à Harraga, Radio Galère, jeudi de 16h à 18h. Nous allons parler de la France aujourd'hui. La France est atteinte, non pas d'une langueur, mais d'une grosse fatigue. Nous avons eu droit au Covid, auparavant aux gilets jaunes pendant 3 mois, des manifestations, des troubles, des déprédations, des violences. Puis de nouveau maintenant, la réforme de la retraite, nous en sommes à la 12e, 13e manifestation grève générale. Sur un fonds d'un endettement général de la France de 3 000 milliards d'euros. C'est pas rien, près de 3 000 milliards d'euros. Vous savez, la Chine, c'est 1,5 milliard d'habitants. Elle a un endettement de 11 000 milliards. La Chine, 1,5 milliard d'habitants. Elle a 11 000 milliards d'euros d'endettement. La France, qui est 30 fois moins peuplée, à presque 3 000 milliards. Elle a atteint la chiffre fatidique. Dans peu de temps, avec le prochain déficit de la balance commerciale, elle arrive les 3 000 milliards. Déjà, elle a eu sa notation déclassée par Standard & Poor's. La France n'a pas un pays 3AA dans l'économie, mais 2A. C'est-à-dire, elle est en baisse. C'est pour vous donner une idée. La Chine, 1,5 milliard de personnes, 11 000 milliards d'euros d'endettement. La France, 30 fois moins peuplée, 3 000 milliards. Presque. C'est dire qu'à tel point que la France est déjà fragilisée. Bon, on a les grèves, ça entrave l'économie de nouveau. On est en train de payer la série d'erreurs de la technostructure française. Je ne suis pas là pour vous dire juste l'absence de lucidité et de perspicacité des Français. Regardez. On a utilisé pour faire passer la réforme de la retraite par l'article 49.3. L'article 49.3 qui permet d'aller un vote intégral sans débat mais par vote bloqué en votant éventuellement une motion de censure, ça a été instauré par Général de Gaulle à l'époque de la 5e République naissante. Pourquoi ? Parce que c'était l'époque de la guerre d'Algérie, dans la foulée de la défaite de Dien Bien Phu. De Gaulle est arrivé au pouvoir dans une période où la 4e République était en pleine déliquescence. Il a voulu un exécutif fort. Quasiment avec la réforme des élections présidentielles au suffrage direct, avec un régime de présidentialisme fort. Le 49-3 a été utilisé pour lutter contre l'OAS, pour l'état d'urgence, pour les putsch des généraux. Mais 70 ans après, 80 ans après, il n'y a plus la guerre en France. La seule guerre qu'il y a, c'est la guéguerre entre les partis en pleine déliquescence. Donc on arrive à une situation où on utilise un pouvoir fort dans une situation anachronique. Le 49-3, on ne peut plus l'utiliser à tout bout de champ pour faire passer une réforme qui n'est pas voulue par l'ensemble de la population et qui est critiquée par bon nombre de personnes. La réforme de la retraite, elle est due à quoi? Parce que selon les prévisions des économistes et des démographes, le trou de la caisse de la retraite sera de 13 milliards en 2050. 13 milliards. Mais ce 13 milliards, ce trou de 13 milliards, on peut le résorber avant les 2050. Il suffit de taxer les super bénéfices de Total Energy, de la Compagnie Générale Maritime, 10% chacun, on les comble aisément, sans avoir à réformer la retraite. Pourquoi? Parce qu'il faut aussi juger toute la technostructure qui, pendant 40 ans, a gouverné la France. On a été pendant 40 ans à dire la compétitivité de la France, ce serait la délocalisation vers les pays du tiers-monde à bien cher. Donc, on a détruit le tissu industriel français. L'Allemagne peut résister. Elle a embauché 1 million de travailleurs immigrés cette année. Les Kurdes, les Syriens, les Ukrainiens, tout. Elle absorbe tout. Parce que là, une industrie. Allez dans un supermarché. Il y a... Allez dans les hôpitaux. Aucun appareil électronique, aucun appareil de chirurgie n'est français. Tous sont ou allemands, ou anglais, ou américains. Aller dans les supermarchés, les frigidaires, les fer à repasser, les téléphones, les télés, rien n'est français. Tout est étranger, ou allemand, beaucoup d'allemands, ou anglais, ou américains, ou alors chinois, ou coréens. Ça, c'est pas au peuple à se serrer la ceinture pour travailler plus, pour payer les fautes de la technostructure. Tous ces gens qui ont émargé sur les budgets d'État avec de gros salaires devraient un jour payer, et on leur fait un rappel à l'ordre de tous les bénéfices qu'ils ont engendrés, de tous les super salaires qu'ils ont eus, pour leur faire de payer sur la caisse commune, pour payer leurs fautes. Comme Bruno Le Maire, hier, 3 jours, il a dit on s'est beaucoup trompé à la privatisation des autoroutes. Ils ont fait des super bénéfices. Et le taux d'intérêt des emprunts a baissé avec le Covid, donc ils ont remboursé plus vite à des taux plus bas, donc et maintenant ils engrangent. Mais ce n'est pas au peuple, aux travailleurs, aux mines, aux précaires, aux artistes, de payer les prix de la technosucrute. Ceux qui ont nationalisé les autoroutes, les péages, sont des gros salaires de la haute fonction publique qui sont assurés d'un salaire et d'un emploi à vie. Et ils n'ont qu'à se cotiser un fonds commun de toute la fonction publique, la haute fonction publique, de cotiser une pénalité forfaitaire de 15% sur les 30 dernières années, le prix de leurs erreurs, et on bouche et la caisse de la retraite et de la sécurité sociale. Pourquoi c'est toujours le petit peuple? Quand il y a une guerre, une mobilisation, beaucoup se réfugient à l'étranger et c'est le petit peuple qui va baïonnette aux fleurs et se faire... massacré. La France vit un état de grande langueur et ça se répercute, ça compromet l'avenir, non seulement sur le plan interne, mais même en 3 ans, la régression de la France est considérable. On n'est pas là, c'est pas parce qu'on critique qu'on est anti-français, c'est parce qu'on est très français qu'on essaye de susciter un sursaut de la conscience française. On a perdu le Mali, on a perdu la Syrie, on continue encore à invoquer la Syrie, mais on l'a perdu la Syrie. Les Français étaient chefs de file de la coalition d'un pays dont ils avaient le mandat au début du XXe siècle et qui se retrouve maintenant au rang d'affinitaire. Tout le monde est en train de normaliser avec la Syrie. La France est à la traîne parce qu'il y a un lobby qui fait qu'ils ont perdu la guerre et ils ne veulent pas admettre leur échec. Ils continuent à annoncer les mêmes âneries et on va se retrouver les derniers encore. Même pour tous les grands débats de la politique contemporaine. La dernière en date des trouvailles des médiacrates, c'est-à-dire ceux qui bavassent à longueur de journée sur les chaînes d'information continue. On nous dit qu'il y a dans les manifestations de retraite de l'extrême gauche, c'est Jean-Luc Mélenchon, et l'ultra-gauche. Croyez-moi, moi cela fait 50 ans que j'observe la vie politique française. Jean-Luc Mélenchon, qui était membre du Parti Socialiste, à l'aile gauche du Parti Socialiste, n'a pas varié. Il défend exactement les mêmes thèses que la gauche du Parti Socialiste des années 70-80, à l'époque du programme commun entre le Parti Socialiste et le Parti Communiste. Il n'a pas varié. Il est encore de la gauche du Parti Socialiste. C'est la droite, c'est les partis socialistes qui a viré à droite, et à la droite radicale. Et la droite avait à la droite extrême radicale. L'ultra-gauche, l'extrême gauche de Mélenchon, c'est exactement la gauche du Parti Socialiste des années 70-80. L'ultra-gauche, c'est une nouvelle création. C'est les casseurs, mais ça n'a rien à voir avec la gauche. Mais on a voulu dire l'ultra-gauche pour équilibrer avec l'ultra-droite qui sont les casseurs, les complotistes, les antifax et tout ça. Jean-Luc Mélenchon est exactement fidèle aux options socialistes que les socialistes ont trahies. François Hollande, Manuel Valls, qui est devenu de l'extrême droite. Donc, c'est une mystification, la classification de Jean-Luc Mélenchon est une disqualification. Comprenez bien, la classification de l'ultra-gauche, de l'extrême-gauche de Jean-Luc Mélenchon est une disqualification. La confusion est telle dans toutes les strates de l'administration, même compris municipale. Ainsi, l'évêché de Versailles, bon, le clergé français est concerné par les scandales de pédophilie, donc il est devenu très prudent. L'Union juive pour le progrès, qui est une organisation de juifs, mais militant non seulement pour la Palestine, mais aussi pour Israël, donc pour une coexistence entre deux pays, en application des résolutions du Conseil de sécurité. Ce n'est pas des foudres de guerre révolutionnaires. Ils disent on applique la légalité internationale. Mais l'évêché de Versailles a supprimé un colloque sur la Palestine qui doit se tenir à l'évêché parce que ça favorise l'antisémitisme. C'est quoi cette histoire? Alors maintenant, si on parle de la Palestine, on favorise l'antisémitisme. Mais la Palestine a préexisté dans l'histoire ancienne au Moyen-Orient, au 20e, au 19e, elle a préexisté à l'antisémitisme européen. Pourquoi transposer les responsabilités? Ou alors se décharger de la responsabilité sur les Arabes, les Palestiniens, les musulmans, les tiers-monde basanés? Non seulement l'évêché de Versailles a interdit un colloque, alors que la liberté d'expression n'est pas un crime antisémite, que je sache, surtout dans la patrie des droits de l'homme, liberté, égalité, fraternité. Mais le maire de Marseille, le socialiste Benoît Payan, et le recteur de l'université d'Aix-Marseille aussi ont interdit les mêmes colloques organisés par l'organisation Union juive progressiste pour la paix. C'est des juifs entre eux qui décidaient de sensibiliser le monde à ce qui se passe actuellement en Israël et en Palestine. Si vous ne le savez pas, sachez que le gouvernement suprémaciste, dans la même idéologie que celle des Trumpistes aux États-Unis, éradicateurs complotistes, sont au pouvoir. Ils sont venus au pouvoir par les voies des élections. Mais on peut venir dictateur par les voies des élections. Mussolini en a apporté la preuve, Hitler en a apporté la preuve, beaucoup d'autres peuvent en apporter la preuve. Il suffit de conditionner l'opinion comme la France l'a fait dans la guerre de Syrie ou du Liban ou de la Bosnie ou de la Libye. Donc, ils ont interdit les trois, l'évêché de Versailles, le rectorat d'Aix-Marseille et Benoît Payan, le maire socialiste de Marseille, ont interdit un colloque qui parlait non pas de la Palestine, mais d'Israël, pour ne pas favoriser. Donc, désormais, critiquer Israël est un crime antisémite. Donc, vous muselez toute critique à l'égard d'Israël. Donc, toute critique d'Israël en train de déclencher une accusation d'antisémitisme. Et l'antisémitisme est devenu l'arme de dissuasion absolue pour toute critique à l'égard d'Israël, au prétexte qu'il faut favoriser l'antisémitisme. Mais le silence sur les excès israéliens favorise un raisonnement contraire. D'autant plus que nos amis, qui sont tenants de cette thèse, disent qu'il ne faut pas transposer le conflit israélo-arabe ou israélo-palestinien en France. Or, ceux qui ont transposé le conflit israélo-palestinien en France, ce sont bien les teneurs du sionisme institutionnel en France. Vous vous rappelez bien Dominique Strauss-Kahn du Temps Splendeur, je fais chaque jour, je travaille pour ce qui est de là. Il était député français, représentation nationale française. J'invite tout juif de France à s'engager à la politique pour contribuer à la grandeur, non pas de la France, mais d'Israël. Ça, c'est une transposition du conflit israélo-palestinien en France. Il y en a tant d'autres comme ça. Or, le problème, Benoît Payan a interdit ça au prétexte qu'il ne favorise pas, il veut combattre l'antisémitisme. Mais cela ne l'empêche pas d'aller à Kiev, de se prendre un selfie. Moi, je veux bien. Mais le combat pour la liberté est indivisible. En Ukraine, comme en Syrie, comme en Palestine, et on combat l'islamophobie, comme la judéophobie, comme la négrophobie, et Benoît Payan, comme contre la palestinophobie, la nouvelle pathologie, la plus récente pathologie des démocraties occidentales. Que ce message soit compris. La liberté d'expression n'est pas un crime, elle n'est pas une forme d'antisémitisme, et combat pour la liberté est indivisible. Il est aussi valable pour l'Ukraine, avec ou sans selfie, aussi valable en Ukraine comme la Syrie, et pas uniquement pour les Kurdes de Syrie, je le dis particulièrement pour Marseille, et non pas uniquement pour les Kurdes de Syrie, pour toute la Syrie, et pour la Palestine, et combattre la judéophobie avec la même vigueur que la palestinophobie, la forme la plus récente de la pathologie occidentale contemporaine. Merci de votre écoute.
Du fond de ma cité HLM, jusque dans ta campagne profonde, notre réalité est la même, et partout la révolte gronde. Dans ce monde, on n'avait pas notre place, on n'avait pas la gueule de l'emploi. On n'est pas né dans un palace, on n'avait pas la CBA papa. SDF, chômeurs ouvriers, paysans, immigrés sans papier, ils ont voulu nous diviser, faut dire qu'ils y sont arrivés. Tant que c'était chacun pour sa gueule, leur système pouvait prospérer. Mais fallait bien qu'un jour on se réveille et que les têtes se remettent à tomber. On lâche rien, 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 on lâche rien. Ils nous parlaient d'égalité et comme des cons on les a crus. Démocratie, fais-moi marrer, si c'était le cas on l'aurait su. Que pèse notre bulletin de vote face à la loi du marché? C'est con mes chers compatriotes, mais on s'est bien fait baiser. Et que pèsent les droits de l'homme face à la vente d'un Airbus? Au fond y'a qu'une seule règle en somme, se vendre plus pour vendre plus. La République se prostitue sur le trottoir des dictateurs. Leurs belles paroles on n'y croit plus, nos dirigeants sont des menteurs. On lâche rien, 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 on lâche rien. C'est tellement con, tellement banal, de parler de paix, de fraternité. Quand des SDF crèvent sur la dalle et qu'on mène la chasse aux sans-papiers, qu'on jette des miettes aux prolétaires, juste histoire de les calmer, qu'ils s'en prennent pas aux patrons millionnaires, trop précieux pour notre société. C'est fou comme ils sont protégés, tous nos riches et nos puissants. Y'a pas à dire, ça peut aider d'être l'ami du président. Chers camarades, chers électeurs, chers citoyens, consommateurs, le réveil a sonné, il est l'heure de remettre à zéro les compteurs. Tant qu'il y a de la lutte, il y a de l'espoir. Tant qu'il y a de la vie, il y a du combat. Tant qu'on se bat, c'est qu'on est debout. Tant qu'on est debout, on lâchera pas. La rage de vaincre coule dans nos veines. Maintenant tu sais pourquoi on se bat. Notre idéal bien plus qu'un rêve. Un autre monde, on n'a pas le choix. On lâche rien, on lâche rien. On lâche rien, on lâche rien. On lâche rien, on lâche rien.